On ne sait pas exactement quand la chose est devenue une tradition. Mais à Maranello, la bourgade attenante aux usines Ferrari, il est d'usage pour le curé de sonner les cloches de l'église pour célébrer chaque victoire de la Scuderia. Le 8 octobre 2000, elles ont fait trembler l'air bien avant l'heure de la messe. Le peuple rouge de cette province de gauche célèbre un événement survenu à 15 000 km de là, sur le circuit de Suzuka. Michael Schumacher a remporté le Grand Prix du Japon. Il est le premier pilote Ferrari champion du monde depuis 1979. Pourtant, un an plus tôt, il s'écrasait violemment dans une pile de pneus de Silverstone et se brisait les jambes, mettant sa carrière en péril.
Die letzte Hoffnung des Michael Schumacher sein.
Oh, look at Michael Schumacher, he's blocked his brakes. Michael Schumacher is coming through to take his first win of the 2003 Formula One season.
3 minuti e 3 secondi, Schumacher e la Ferrari sono campioni del mondo.
Michael Schumacher absolutely flying.
Épisode 7, de l'hôpital au sacre.
Effacé des tablettes du championnat 1997, Michael Schumacher promet de prendre sa revanche l'année suivante, mais là, c'est un nouvel adversaire qui se dresse sur sa route, c'est Mika Häkkinen et les McLaren. Pierre Van Vliet, comment s'explique le comeback des Flèches d'Argent ?
Alors, c'est une longue histoire, quelque part, mais McLaren est quand même l'écurie qui a dominé la F1 avec la période post-Senna. Et ils ont souffert du départ de Honda, qui avait été relativement mal anticipé par Ron Dennis. Et donc, ils ont eu un creux de la vague, un moteur fort, ils ont failli faire un deal avec Lamborghini, Chrysler à l'époque. Ça ne s'est pas fait en dernière minute, donc ils ont dû colmater des brèches. Il y a eu un deal avec Peugeot, mais qui était contre nature. Une saison de McLaren-Peugeot, on s'en souvient. Avec même Mansell chez McLaren, c'était encore plus contre nature. Et donc, voilà, ils ont touché le fond, mais en passant chez Mercedes, on savait que McLaren allait retrouver de sa superbe, que Mercedes était très ambitieux. Il y a eu un schisme aussi à l'époque avec le sponsor historique, Marlboro, donc les couleurs rouge et blanc, parce que Ferrari a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur pour Marlboro. Du vivant du Commendator, c'était pas encore tout à fait possible, puisque Enzo Ferrari disait « Mes voitures ne fument pas, monsieur ». Mais bon, quand même, l'argent n'a pas d'odeur. Et donc voilà, il y a West, une marque de cigarettes allemande, qui vient en soutien de Mercedes. Et donc les McLaren deviennent les Flèches d'Argent, deviennent grises. Et c'est toute l'histoire de la course automobile, évidemment, qui est enfin, une espèce de renaissance de Mercedes en Formule 1. Chez McLaren, il y a encore l'équipe en place qui est solide. Il y a évidemment Mika Häkkinen qui est le protégé de la maison. Après Senna, c'est lui qui a vraiment pris le leadership. Il y a eu un terrible accident en Australie fin 95, mais Mika en est revenu et un peu par miracle. Mais donc c'est le favorite son, comme on dit en anglais, vis-à-vis de Ron Dennis. Il y a quand même David Coulthard à côté de lui qui est solide et qui est jeune, ambitieux, rapide. Et il manquait juste le dernier ingrédient, et c'est l'ingénieur de génie dans cette génération-là, c'est Adrian Newey, qui quitte Williams pour rejoindre McLaren. Et voilà, je dirais presque instantanément, on voit Williams qui baisse en régime et McLaren qui monte en puissance.
Cette année-là, Schumacher se bat pour le titre, mais il perd à Suzuka. L'année suivante, rebelote, c'est de nouveau McLaren contre Ferrari. Mais la trajectoire de l'Allemand se brise dans une pile de pneus à Silverstone.
Oui, c'est même les jambes qui se brisent. Dans le mur de protection de pneus, façon de parler, on a Stowe Corner, qui est le virage le plus rapide du circuit de Silverstone, après la longue ligne droite Hangar Street. Alors c'est très intéressant, parce que c'est pas vraiment ce jour-là que ça se passe. C'est la veille. Parce que la veille au soir, le 10 juillet, le samedi soir, Eddie Irvine signe son contrat avec Jaguar. Signe pour 3 ans chez Jaguar, un contrat mirobolant, 9 millions de dollars par an. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que chez Ferrari, on ne le sait pas. On ne le sait pas encore. Irvine fait ça en 12, parce qu'il sait qu'il n'est plus en ordre de sainteté chez Ferrari, et que de toute façon, il est le numéro 2 désigné de Michael, et qu'il n'a pas le droit, même contractuellement, de sortir des clous. Et donc, Irvine signe avec Jaguar le samedi. Et donc le dimanche, au départ de la course, il se fait qu'Irvine prend un meilleur départ et que dans le premier tour, je crois qu'il y a les McLaren devant, il y a Irvine troisième et Schumacher quatrième. On rentre dans la ligne droite opposée, là une longue ligne droite derrière. La routine, c'est Irvine s'écarte, ou en tout cas quand Schumacher se montre dans ses rétroviseurs, ben, voilà, il n'insiste pas, il ne résiste pas. Sauf que ce jour-là, eh bien, il ne passe pas les plats, il résiste. il est sur la bonne trajectoire. Michael va à droite dans la partie sale de la piste. On est au premier tour, hein, c'est pas encore gommé. Et voilà, il tire tout droit. Alors après, Ferrari disent oui, il y a eu une défaillance des freins, etc. On n'a jamais eu vraiment la preuve de ça. De toute façon, dans l'état où était la voiture, c'était difficile d'aller voir la tranche des freins. Moi, je suis persuadé que Michael ne s'attendait pas à ce qu'Irvine lui résiste et que du coup, ben voilà, il bloque les roues parce qu'il est dans la partie sale. Il freine trop tard parce qu'il est à côté d'Irvine et il est surpris de voir Irvine lui résister. Sauf que voilà, il se retrouve à l'hôpital.
Oh là là, le short terrible de Schumacher.
Les deux Ferrari, non ?
Schumacher dans le mur des pneus.
Oh là, il a de la... il va falloir qu'il prenne son mulet s'il ne s'est pas fait mal, Pierre.
Et justement, à ce moment-là, vous étiez à l'époque commentateur pour TF1. Comment on gère une situation comme celle-là ? On a un homme qui tente de sortir de sa voiture mais qui n'y arrive pas, les médecins qui arrivent, on n'a pas d'informations. Comment est-ce qu'on gère ça ?
C'est très difficile, c'est une autre époque, on ne se rend pas compte de ça aujourd'hui. Mais moi j'ai vécu beaucoup d'accidents et de directs où on n'a pas d'infos, on doit meubler l'antenne et où voilà, on est quand même inquiet aussi. Même si Michael bougeait, mais on voyait bien qu'il ne pouvait pas sortir de l'auto. Et puis bon, la course continue, enfin, même s'il y a une voiture de sécurité, etc., la course continue. Ce qui m'a frappé, je me souviens, c'est que Jean Todt disparaît de la passerelle de commandement chez Ferrari parce qu'il part à l'hôpital à Northampton au chevet de Michael. Et la course d'Irvine, qui est quand même par défaut le leader de la Scuderia, même si ce n'était pas du tout prévu dans le script, la course d'Irvine, elle est un peu plombée parce que la stratégie est mal faite chez Ferrari. Finalement, Irvine, il fait deuxième du Grand Prix, mais il aurait dû gagner parce qu'il y avait moyen de, voilà, sur les arrêts au stand de passer les McLaren, si je me souviens bien. Moi, j'ai parfois évoqué ça, et Jean-Todd était très vexé quand je faisais remarquer que, tiens, il avait, entre guillemets, démissionné de son poste, quoi. Mais c'était pour aller au chevet de Michael. Et il faut savoir que Jean-Todd est très sensible à ses pilotes, il est très proche de ses pilotes, et que dès l'instant où un pilote se blesse ou un pilote frôle la mort dans une de ses voitures, la priorité, elle est là. Et c'est tout à fait respectable, évidemment, hein. Mais on se souvient, par exemple, de l'accident d'Ari Vatanen en Argentine, en rallye avec la Peugeot. Eh bien, Jean s'est coupé en quatre pour qu'on rapatrie Ari le mieux possible, pour qu'il soit soigné dans les meilleures conditions, etc., etc. Ça a encore été le cas aussi, évidemment. On y reviendra avec Schumacher dans d'autres circonstances. Mais ce jour-là, effectivement, Jean Todt est au chevet de Michael à l'hôpital de Northampton, et il n'est pas à l'arrivée du Grand Prix avec la Scuderia et avec Eddie Irvine, qui est... le nouveau chargé de mission en rouge.
Jambe cassée pour Michael Schumacher. Est-ce qu'il y a eu des doutes sur son retour ?
Alors non, pas sur son retour, parce que bon, c'était des sales fractures, mais au bout de 2 ou 3 mois de convalescence, les jambes étaient consolidées, on savait qu'il allait revenir. C'était sur le timing qu'il y avait un doute. Et on s'est rendu compte qu'il n'était pas pressé de revenir. Irvine avait quand même gagné 2-3 courses, Mika Salo lui avait offert la victoire à Hockenheim, Salo qui était assuré l'intérim de Michael. Irvine se trouvait en position peut-être de gagner le championnat. Or, chez Ferrari, depuis 1979, on courait après le titre mondial et on allait avoir cet imposteur d'Irvine, le traître qui venait de signer chez Jaguar, qui allait devenir champion, le premier champion du monde de Ferrari depuis 20 ans. Impensable dans l'esprit de Michael, mais je crois aussi dans celui de Jean Todt, qui s'était senti trahi par Irvine à ce moment-là. Et c'est Luca di Montezemolo, l'anecdote est connue, hein, qui appelle un jour en Suisse chez Schumacher pour prendre des nouvelles. Et puis c'est la fille de Michael qui décroche et qui dit « Ah papa, oui, je vais vous le passer, mais il est dehors, là, il joue au foot dans le jardin. » Comment ça, il joue au foot ? Ah, il a les jambes cassées, il ne peut pas conduire des fins, il joue au foot. Schumacher au turbin. Donc Michael était obligé de revenir alors qu'il jouait au foot, parce qu'il adorait le foot. Il jouait dans une équipe de 3e division en Suisse. Là, il prenait ça très au sérieux. Il aimait beaucoup le football. Mais bon, là, il s'est fait prendre en flag et dénoncer par sa fille, qu'il n'a pas fait exprès. Et du coup, pour les 2 derniers Grands Prix, Schumacher revient chez Ferrari. Mais il doit évidemment servir de lieutenant pour Eddie Irvine. Les rôles sont inversés.
Le 15 octobre 1999, 3 mois à peine après le crash, Michael Schumacher se présente aux essais du Grand Prix de Malaisie et il se met au service d'Irvine.
Façon de parler. C'est-à-dire que déjà, les qualifs, c'est une humiliation. Il met Irvine à 1 seconde 2, juste pour rappeler qui est le patron, etc. Donc Irvine, il est complètement massacré, et en interne chez Ferrari, tout le monde ricane, quoi. Donc c'est très étonnant de voir Irvine qui se bat contre tous pour gagner ce championnat qui est le Graal de Ferrari depuis toujours, et on a l'impression qu'ils ont mis le frein à main parce qu'ils n'ont surtout pas envie qu'il gagne. Bon, finalement, Michael, en course, il est obligé quand même de jouer le jeu de l'équipe, et donc il laisse passer Irvine, il offre la victoire à Irvine, mais c'est tellement souligné que ça en est presque gênant. Et du coup, Irvine se présente à Suzuka avec les capacités de jouer le titre face à Hakkinen et McLaren. Moi, je me souviens d'une interview dans le carré des interviews à Suzuka après les qualifs, où, bon, c'est pas très fair play de ma part, mais je dis à Irvine, Et ça ne te gênerait pas d'être champion du monde alors que tu as eu zéro pole position de toute la saison? Alors là, il était vexé, il me dit « oui, c'est le dimanche qu'on marque des points ». Enfin bref, il répond ce qu'il peut répondre. Mais ça en disait long, disons, sur le fait que ça aurait effectivement été un championnat à la sauvette si Irvine avait été sacré. Et finalement, c'est Mika Häkkinen qui est champion du monde, enfin, qui conserve son titre, et tout est bien, qui finit bien.
Il cite Irvine, et on arrive à la saison 2000, et... Il y a notamment un Grand Prix d'anthologie, c'est le Grand Prix de Belgique, où on a un duel Schumacher-Häkkinen dans des conditions très très difficiles. Pas de chance, Pierre Van Vliet, le dépassement du siècle intervient pendant la pub sur TF1.
Oui, alors évidemment, c'est terriblement vexant, mais à l'époque, TF1, on saucissonnait le Grand Prix. Hein, il y avait 4 coupures pub, et pas des petites, hein, c'était 2 minutes 30, voilà. Donc il fallait aussi, on n'avait pas le droit à passer les coupures pub quand on voulait. Il fallait qu'il y ait 4 coupures par heure, un truc comme ça. Donc, à la production, j'avais dans l'oreillette, il y avait la script, il y avait le producteur. Ça rigolait pas quand on me disait pub, c'était pub, quoi. Mais là, on sentait tellement le coup venir, parce qu'au tour précédent, il y a déjà Häkkinen qui prépare son coup. On sentait tellement le coup venir, je dis non, attendez, encore un tour, encore 2 minutes, quoi. Non, pas possible, on va déborder, machin, etc. Bon, contraint et forcé, je lance la pub. Et évidemment, ce qui doit se produire arrive, le dépassement d'anthologie avec Ricardo Zonta au milieu et Häkkinen qui a aussi ce culot d'y aller quand même. Parce qu'Häkkinen s'est rendu compte au tour précédent que Michael est capable aussi de l'emmener dans l'herbe à 300 à l'heure. Et il voit Zonta devant... Il sait que Schumacher va passer Zonta à gauche, c'est la logique. Et il tente le coup à l'aspiration et il met 2 roues dans l'herbe, mais il passe à droite de Zonta et pas de Schum. Et du coup, il passe devant. C'est un dépassement effectivement inoubliable.
Häkkinen blotti dans le siège de la Ferrari. La barre de Zonta qui se fait doubler. Et Schumacher n'a pas osé se rabattre comme au tour précédent. Oui. Häkkinen, cette fois-ci, imparablement, prend la tête.
Et ça nous vaut d'ailleurs une petite aparté entre les deux bons vieux amis, Schumacher et Häkkinen, au pied du podium. C'était assez intéressant. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais si on lit sur les lèvres de Mika, on semble entendre quelque chose comme... Remember Macau. C'était du Häkkinen dans le texte.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le Finlandais, on va dire l'adversaire le plus remarquable de Schumacher?
Oui, c'est certainement le plus coriace de ses rivaux à l'époque, parce qu'à voiture égale ou à, disons, voiture suffisamment compétitive, Häkkinen a toujours vraiment donné du fil à retordre à Michael, pas seulement en Formule 3, mais en F1 aussi, même si la McLaren et la Ferrari n'ont pas été tout à fait au top niveau au même moment. Il y a eu ces saisons, 98, 99, 2000, où effectivement, à armes égales, on a vu que Mika ne se laissait pas faire et qu'il a même souvent... eu l'avantage. On va parler sans doute du Grand Prix 2000, évidemment, à Suzuka. Mais je voudrais juste, pour l'anecdote, pour vous donner une idée de la rivalité entre Häkkinen et Schumacher et de la guerre psychologique entre eux, c'est que Suzuka, en 98, je dis bien, pas 19, parce que là, c'était la finale avec Irvine, 98, Mika s'était rendu compte que Schumi, dans le tour de chauffe, était assez rapide, Schumacher en pôle, était assez rapide parce que visiblement la Ferrari en refroidissement, elle était limite. Et donc, cette année-là, en 98, Mika se rend compte de ça. Il y a un faux départ parce qu'il y a un pilote qui a calé sur la grille. Donc, deuxième tour de chauffe, où de nouveau Michael prend les devants et est beaucoup plus rapide que d'habitude dans un tour de formation. Et Häkkinen se dit, ils doivent être limite en température. Donc Häkkinen exprès ralentit tout le peloton. Et donc Michael arrive sur la grille et il doit attendre 30 secondes que Häkkinen s'immobilise à côté de lui et encore 20 ou 30 secondes que les 26 voitures derrière soient en place. Du coup, la Ferrari reste plus d'une minute surchauffée à l'arrêt et ce qui doit arriver arrive, l'embrayage colle et Michael rate son départ et Mika gagne le championnat comme ça.
À Suzuka, grâce à une astucieuse stratégie, Michael Schumacher triomphe de Mika Häkkinen et remporte le titre de champion du monde qui échappait à la Scuderia depuis 1979. Quel souvenir vous gardez de ça, Pierre Van Vliet?
Alors justement, moi je me souviens de la revanche de 98 et c'est un peu rendre la monnaie de sa pièce à Häkkinen, quoi. Alors c'est vrai que la Ferrari cette année-là, elle est peut-être supérieure à la McLaren. À Suzuka, qui est un circuit de pilotage, il y a de nouveau un match Schumacher-Häkkinen. On retrouve les deux qui sont au sommet de leur art. Et la Scuderia, là, devient aussi à la pointe en termes d'exploitation, en termes opérationnels, avec Ross Brawn, le grand stratège. Et donc, c'est une victoire qui soulage tellement de monde, parce que chez Ferrari, ils courent après depuis si longtemps, et même Jean Todt, c'est quand même depuis 1993 qu'il est chez Ferrari, ça fait 7 ans. Et 7 ans sans un championnat, en étant passé tout près. Hein, en 97, Jerez, 99 forcément l'accident. Et donc en 2000, c'est enfin la délivrance. Quoi. Dans ce paddock de Suzuka, où elle est aussi à la tombée de la nuit chaque fois, c'est des moments assez inoubliables, parce que, et c'était valable pour le titre d'Aquinet de l'année précédente, hein, ou les deux années précédentes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une manière de faire la fête, après c'est le dernier Grand Prix de la saison, etc. Et alors tout le monde se retrouve dans ce qu'on appelait les log cabins, c'est des karaoké typiquement japonais, et comme c'est fini, le championnat est fini, on prend les avions le lendemain parce qu'on est loin, ben voilà, tout le monde est un peu torché, hein, c'est au saké que ça se passe, et Michael debout en train de chanter du Frank Sinatra, enfin voilà, c'est des souvenirs assez inoubliables aussi de comment célébrer enfin ce championnat qui est leur échappé depuis si longtemps.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son montage Clément Winter, voix off Marie Lisac.